Laudetur Jesus Christus.
La Géorgie, secouée depuis trois semaines par des manifestations, en cause l'adoption d'une loi inspirée d'une législation russe. Un texte qui montre les tiraillements du pays entre ses aspirations européennes et l'influence de Moscou. La trêve se fait attendre dans la bande de Gaza. Hier, le secrétaire d'État américain a une nouvelle fois mis la pression sur Israël pour renoncer à toute offensive terrestre sur Rafah. Nous ferons le point avec notre correspondante à Jérusalem. Dans ce journal également, les élections qui se poursuivent en Inde et le Premier ministre Modi omniprésent dans les médias pour assurer à son parti une majorité absolue. Direction aussi le Burkina Faso où les syndicats ont défilé hier 1er mai pour s'inquiéter de la restriction des libertés par la junte au pouvoir. Et puis dans notre dossier ce matin, retour sur les 20 ans d'élargissement de l'Union européenne. Le 1er mai 2004, 10 nouveaux pays, essentiellement d'Europe centrale et de l'Est, intégraient l'Union. Nous en parlerons à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, les manifestations ne faiblissent pas en Géorgie. Des dizaines de milliers de personnes étaient de nouveau hier dans les rues du pays, en particulier à Tbilissi, la capitale, pour protester contre une nouvelle loi adoptée au Parlement, une loi censée lutter contre les influences étrangères et inspirée du modèle russe. Ces détracteurs y voient une volonté d'entraver tout rapprochement de la Géorgie avec l'Union européenne. La correspondance régionale de Jean-Didier Revoy.
Ils étaient à nouveau des dizaines de milliers hier soir à manifester leur mécontentement devant le Parlement géorgien. Ils estiment en effet que ce projet de loi visant à limiter les influences étrangères dans le pays ressemble trop à la loi similaire qu'utilise le Kremlin pour réprimer l'opposition. Les députés ont en effet accepté hier, avec 83 voix pour et 23 contre, un texte que rêve géorgien, le parti au pouvoir, compte adopter définitivement d'ici la mi-mai, malgré une mobilisation sans faille des opposants depuis trois semaines. Mardi soir déjà, la police avait dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc, procédant à 63 arrestations. Hier, elle a utilisé du gaz poivre et des canons à eau pour disperser un petit groupe de manifestants qui tentaient de bloquer l'entrée latérale du Parlement. Le texte qui doit encore passer en troisième lecture est combattu par la présidente. Salomé Zourabichvili devrait y opposer son veto, mais rêve géorgien dispose d'assez de voix pour passer route, même si des manifestations ont lieu dans d'autres villes du pays, comme Batoumi ou Koutaïssi. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Et en décembre dernier, l'Union européenne avait accordé à Tbilissi le statut de candidat officiel. L'élargissement de l'Europe, on en reparle dans notre dossier à la fin de ce journal. De nouvelles sanctions américaines contre des entreprises contribuant à l'effort de guerre russe en Ukraine. Parmi la liste du département d'État figurent 16 entreprises chinoises ou hongkongaises. Elles fabriquent des composants essentiels à la fabrication d'armes russes. Les États-Unis qui accusent par ailleurs Moscou d'avoir utilisé un produit chimique interdit contre les troupes ukrainiennes, la chloropicrine, et ce en violation de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Le Proche-Orient attend toujours une trêve dans la bande de Gaza. Hier, le secrétaire d'État américain Antony Blinken, en visite en Israël, la septième fois depuis le 7 octobre, a tenté de mettre une nouvelle fois la pression sur Benjamin Netanyahou. Il a réaffirmé l'opposition des États-Unis à toute offensive sur la ville de Rafah. Des négociations sont en cours pour un cessez-le-feu, selon le Hamas. Des négociations qui pourraient être rompues si Israël rentrait à Rafah. Les précisions de notre correspondante à Jérusalem, Valérie Ferrand.
Selon le représentant du Hamas au Liban, Osama Hamdan, les négociations sur un cessez-le-feu sont censées se poursuivre, même si la dernière proposition en date pour un accord présentée par les médiateurs qataris et égyptiens avec les États-Unis ne remplit pas les demandes du mouvement pour parvenir à une trêve de longue durée et à un échange de prisonniers. Les discussions s'annoncent d'autant plus difficiles que côté israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé que l'opération terrestre dans la ville de Rafah aurait lieu indépendamment d'un accord. Cette ville, où sont regroupées plus d'un million de personnes déplacées, dont 600 000 enfants, reste la cible quotidienne de bombardements israéliens, alors que les combats entre l'armée israélienne et les factions palestiniennes se poursuivent dans l'ensemble de ce territoire, où la situation humanitaire ne cesse de se détériorer, malgré une modeste augmentation du nombre de convois d'aide humanitaire pouvant y entrer. Certains ont pu accéder à la région nord, la plus touchée par la famine et la destruction des hôpitaux par l'armée. l'armée israélienne. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
À Gaza, il y a plus de débris et de gravats déblayés qu'en Ukraine, a révélé hier l'ONU. Une tache gigantesque dans les trois territoires palestiniens, rendue encore plus dangereuse par la masse de munitions non explosées et par aussi l'amiante. Et puis la paix dans la région, il en sera question ce jeudi au Vatican, puisque le pape François reçoit ce matin en audience le roi Abdallah II de Jordanie, le souverain jordanien qui doit s'entretenir avant cela avec les autorités italiennes. Les îles Salomon dans le Pacifique Sud, un point stratégique de l'influence chinoise dans la région. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Jérémia Manele, est devenu aujourd'hui le premier ministre en remportant les élections. Son adversaire comptait réduire l'influence chinoise sur l'archipel des Salomon. En 2019, Manele avait officiellement rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan pour en établir avec Pékin. Partons en Inde où le premier ministre sortant, Narendra Modi, multiplie les meetings depuis quelques semaines pour assurer sa réélection à l'issue des élections législatives. Le scrutin a commencé le 19 avril dernier. Il doit se poursuivre jusqu'au 1er juin. La campagne est très longue, mais le leader nationaliste hindou a les moyens de saturer l'espace médiatique. Il dispose de moyens sans commune mesure avec ses opposants. À New Delhi, Emmanuel Derville.
Depuis le début de la campagne des législatives, il ne se passe pas un jour sans que Narendra Modi fasse un, voire plusieurs meetings ou donne une interview à la télévision. Son parti, le BJP, dépense des centaines de milliers d'euros. En 6 ans, il a levé près d'1 milliard auprès des entreprises grâce à des bons électoraux. C'est 4 fois plus que le parti du Congrès, son principal adversaire. Surtout, le Premier ministre exploite l'appareil d'État. L'administration a donné aux militants les coordonnées des allocataires des aides sociales. Ils font ensuite du porte-à-porte pour les inciter à voter Modi. 2 mois avant le début du vote, le gouvernement central avait aussi lancé une campagne pour promouvoir les mesures de protection sociale. Les ministres et les fonctionnaires ont été mobilisés pendant 3 mois. Le BJP jouit d'un avantage par rapport à ses concurrents, une inégalité de nature à remettre en cause l'intégrité du scrutin. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
Comme chaque année, le 1er mai a dans de nombreux pays du monde donné l'occasion de manifester, manifestations de syndicats ou d'opposants politiques. Hier à Istanbul, des dizaines de personnes ont été interpellées alors qu'elles manifestaient sur l'emblématique place Taksim au cœur de la ville. Direction ce matin aussi le Burkina Faso où des défilés ont pris parfois un tour politique. Les syndicats ont en effet été empêchés hier à Ouagadougou de tenir leur marche traditionnelle vers le ministère du Travail. Des syndicats qui ont pu néanmoins tenir un meeting pour dénoncer les restrictions continues des libertés imposées par la junte militaire. Le reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
À la Bourse du Travail, en plein cœur de Ouagadougou, plusieurs centaines de militants syndicaux sont ici. Au programme, une marche suivie d'un meeting. Mais au dernier moment, les autorités décident d'interdire la marche. Les syndicats ne peuvent que tenir un meeting. Déception. Olivier Ouidraogo, secrétaire général de la CSB, la Confédération syndicale burkinabé, et président de moi de l'UAS, l'unité d'action syndicale.
Priver les uns et les autres de liberté, que ce soit au niveau de la presse, que ce soit la liberté syndicale, que ce soit les libertés démocratiques, ça n'a pas de sens pour nous. C'est pas comme ça que nous allons combattre le terrorisme.
Francis Idemba est un militant de l'Union syndicale des travailleurs du Burkina.
Actuellement, il n'y a plus de liberté. Même à la maison, il n'y a plus de liberté. Tu n'as même pas le droit de communiquer. C'est grave. Il faut que ça change. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous sommes contre ce système.
La plateforme revendicative des syndicats comporte 48 points répartis en 4 chapitres. Elle va de la sécurité des populations à la garantie du pouvoir d'achat, en passant par le respect des libertés démocratiques et syndicales. Ouagadougou, Lamine Traoré pour Radio Vatican.
Avant de passer à notre dossier, un mot de la République démocratique du Congo. L'Église catholique apporte son soutien au cardinal Fridolin Ambongo, l'archevêque de Kinshasa. Une information judiciaire a été ouverte contre lui pour incitation à la révolte et diffusion de fausses informations. Dans un communiqué, la conférence des évêques congolais dit suivre avec attention cette situation et appelle les uns et les autres au calme. Le dossier est traité de manière responsable avec les autorités compétentes dans le respect des textes légaux du pays, écrit la CENCO dans ce communiqué. Les textes légaux, c'est notamment l'accord cadre qui fixe les relations entre le Congo et le Saint-Siège. Un accord qui, rappelle la CENCO, garantit un régime de collaboration loyale et sincère entre l'Église catholique et l'État au service du peuple congolais. Fin de citation. Varsovie, Budapest, Prague, Bratislava, le cœur battant de l'Europe centrale et orientale rejoignant le rêve animant alors tout le vieux continent. C'était il y a 20 ans, le 1er mai 2004, 10 nouveaux pays entraient dans l'Union européenne, la faisant passer à 25. L'intégration de ces 10 États membres, pour la plupart ex-communistes, liés diversement à l'URSS, fut un élargissement sans précédent, ajoutant 75 millions de citoyens à son projet économique, politique et bientôt géopolitique, à l'ombre encore de Moscou. La guerre déclenchée il y a 2 ans par la Russie aux confins de ces pays a en effet redynamisé les velléités d'intégrer 10 autres pays, de l'Ukraine aux Balkans occidentaux, et non sans conséquences, que nous décryptons ce matin avec le chercheur Sylvain Kahn. Il est spécialiste de l'Europe au Centre d'Histoire de Sciences Po. 20 ans après cette adhésion, il revient d'abord sur le bilan économique et démocratique de ces pays d'Europe centrale et orientale.
La Pologne ou la République tchèque ont aujourd'hui un PIB par habitant supérieur à celui du Portugal ou de l'Espagne. La Slovénie a un PIB supérieur à celui de la Grèce depuis 10 ans déjà. Donc il y a effectivement un processus d'intégration différencié qui fait que si ces pays étaient au départ, sinon archaïques, en tous les cas anciens de leur structure économique et financière des périphéries, aujourd'hui, sont en train de faire partie des centres, étant entendu que l'Union européenne se caractérise par son polycentrisme, et c'est d'ailleurs une de ses grandes caractéristiques. Donc, dans l'ensemble, oui, il y a un phénomène de rattrapage qui était espéré. C'est pas la même chose de participer à la construction européenne quand on est héritier de 50 ans de communisme que de construire l'Europe quand on n'a pas cette expérience. Il y a une acculturation réciproque.
Comment le 24 février 2022, l'invasion russe de l'Ukraine a-t-elle remis au centre cette question de l'élargissement qui semblait s'enliser dans les limbes institutionnelles européennes ?
Clairement, par rapport aux 4 vagues d'élargissement précédentes, l'élargissement devient, ou plutôt est motivé par une représentation géopolitique, bien davantage que par une représentation soit éthique, soit économique. En clair, là, on va privilégier la confrontation avec la Russie sur les critères traditionnels, le respect de l'état de droit, la lutte contre la corruption, la capacité à soutenir une économie de marché. Et évidemment, ces critères restent toujours des objectifs, mais là, très clairement, on dit l'objectif numéro 1, c'est de faire rentrer dans l'Union des pays qui sont agressés par la Russie ou menacés par la Russie, parce que l'Union européenne est elle-même menacée par la Russie.
Quel serait le nouveau visage de l'UE à 37 ? Quelles seraient les conséquences sur le fonctionnement de ces institutions ?
Le scénario qui prolonge ce qui se passe depuis 40 ans. C'est-à-dire que à chaque vague d'élargissement, on adapte les institutions sans les modifier de manière spectaculaire. Il n'y a pas de Big Bang. On étend un peu plus les prérogatives du Parlement européen. On ne modifie pas l'équilibre des pouvoirs entre le Conseil, la Chambre des États, le Parlement européen, la Chambre des citoyens et la Commission. Voilà. Bon, mais pour autant, on aménage. Et j'ai presque envie de dire que sur les 50 ans précédents, on a un peu profiter des élargissements pour faire passer des assouplissements, des aménagements, des adaptations des institutions européennes, plutôt que de faire un grand Big Bang. Bon, le deuxième scénario, c'est le scénario, si j'ose dire, du Big Bang. Comme là, on va être beaucoup plus nombreux, si on ne fait pas une réforme en profondeur du système politique et institutionnel, on n'arrivera pas à fonctionner. Alors, à chaque vague d'élargissement, celle des années 70, celle des années 80, celle des années 90, et bien entendu, celle des années 2000 et 2010, il y a eu ce discours. Ça commence à revenir, comme la confrontation avec la Russie rebat tout un tas de cartes. Qui sait si cette fois ne serait pas la bonne pour le scénario d'une réforme des institutions de type Big Bang. Dans les faits, ce qui est sur la table de manière opérationnelle, c'est l'idée d'un élargissement qu'on appelle graduel ou progressif. C'est-à-dire qu'on renonce à l'élargissement tout ou rien. Quand un État candidat est en capacité d'intégrer les politiques européennes à 30%, eh ben, on va l'intégrer à 30% dans le système politique institutionnel, puis à 50%, puis à 75%, et puis à 100%, sans que personne n'ait à attendre un nombre d'années qui peut être très long, qu'il soit entièrement prêt à intégrer l'UE.
Interrogé par Delphine Allaire, l'historien spécialiste de l'Europe, Sylvain Kahn, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera à 13h en direct de Rome. N'oubliez pas d'ici là toutes nos informations à retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Vaticannews.va. Je vais aller boire un café. Très belle journée.